RFJ Info.
Le journal de Thomas Nagy.
Bonsoir. Un établissement tenu en partie par des personnes en situation de handicap. C'est le projet mené par l'association Décrocher la Lune qui rénove en ce moment l'hôtel-restaurant La Demi-Lune à Saint-Ursanne. Petit tour du chantier dans un instant. Le calvaire continue pour Theresa May. La première ministre britannique doit faire face à un vote de défiance ce soir après le refus du Parlement au sujet de l'accord pour le Brexit. Un vote qui ne devrait cependant pas provoquer la chute de Theresa May. Henri Laaksonen n'est pas passé loin de l'exploit à l'Open d'Australie. Le joueur de tennis helvétique s'est incliné en début d'après-midi dans un duel en 5-7 pour son deuxième tour face au jeune Australien Alex de Minaur. Retour sur cette rencontre dans ce journal. Après une parenthèse ensoleillée, le ciel devrait se gâter. Selon Météo News, des nuages et quelques averses feront leur apparition d'ici à demain matin. Les températures resteront positives cette nuit. L'hôtel-restaurant La Demi-Lune à Saint-Ursanne est en pleine mue. Il appartient depuis le début du mois à l'association Décrocher la Lune, qui a pour but d'ouvrir un établissement qui sera tenu en partie par des personnes en situation de handicap. Des travaux sont donc actuellement menés dans l'établissement. Visite de chantier avec le président de l'association, Pascal Berbera.
Nous avons commencé les travaux au mois de novembre. D'abord les petits travaux où on a rafraîchi les chambres, posé quelques parquets. Et puis depuis le début de l'année, on a commencé le gros œuvre.
On peut visiter ?
Entrer seulement, oui.
Donc là, on est dans un hall d'entrée. Pour les personnes à mobilité réduite, ce sera un peu compliqué là, d'accéder soit au restaurant, soit aux chambres.
Alors pour le restaurant, il y a un mini-seuil, mais on va recarreler et puis on va venir à fleurs. Et puis pour accéder aux chambres, on va poser ici un mont de charge vitré.
On entend au-dessus de nous des gens s'affairer. Qu'est-ce qu'ils font ?
Il faut aller voir, je ne sais pas. Je ne vais pas aller voir ce matin encore. Donc.
Alors on va aller voir. Bonjour. Donc là, c'est un espace qui a totalement été recréé. On voit des nouvelles cloisons.
Oui, c'était avant une salle de ménage avec un bureau. Et puis, on va utiliser cet espace-là pour faire des toilettes adaptées. Et puis, également, une chambre complètement adaptée, également pour les personnes en chaise roulante.
On continue, on monte encore d'un étage ?
Voilà, les toilettes sont en bon état. On a juste refait un petit rafraîchissement au niveau peinture.
Donc ça, la peinture, par exemple, ça fait par qui ?
Alors, c'est des bénévoles qui nous donnent un coup de main pour le pinceau.
Ça, le bénévolat, ça compte pour beaucoup dans ce chantier ?
Oui, on a calculé les heures, puis c'est assez impressionnant. On arrive à plus de 1500 heures de bénévolat.
Alors, on va voir la suite. Ok, alors là, cette fois-ci, on accède au dernier étage.
Voilà, si on prêt, on va laisser poser leur plaque, puis après, on va... Ça marche, qu'ils disent.
Oui, alors là, il faut s'imaginer dans le grenier, dans le Galta.
Il y a un mois en arrière, ici, il y avait 3 chambres, mais qui n'étaient pas louées parce qu'elles étaient très petites, elles étaient très anciennes. Et puis là, on a tout démonté, les parois, le plafond.
Et puis, vous allez en faire combien de pièces ici ?
Alors, quand on aura de nouveau de l'argent dans quelques années, on verra ce qu'on fait exactement. Pour l'instant, on fait l'enveloppe et puis on isole. Mais pour l'instant, on ne va pas investir plus sur cette partie ici.
Pascal Berbera au micro de Nancy Chapuis. Le budget pour la réouverture de la demi-lune avoisine les 1,4 millions de francs. Il en manque encore 80 000 à l'association. L'hôtel-restaurant doit rouvrir ses portes dans le courant du mois de mars. Et une visite du chantier aussi en vidéo sur bnj.tv. Les dicastères ont été répartis à Moutier pour la nouvelle législature. Les travaux publics et bâtiments reviennent à Valentin Zuber, alors que Suzanne Koller sera en charge de celui intitulé « Génération et communauté ». Les conseillers municipaux sortants et réélus conservent leurs anciennes attributions. On reste dans le Jura bernois. Les recourants ne savent pas encore s'ils acceptent ou non la confirmation du vote communaliste de Belpraon. Le deuxième et dernier recours pendant contre le scrutin du 17 septembre 2017 a été rejeté par la préfecture du Jura bernois. Annonce faite ce matin. Le premier recours avait déjà été rejeté en début d'année passée. Celui tranché hier par la préfecture était porté par 2 citoyens et concernait la sécurité du vote par correspondance. Un coup de projecteur sur le couple canton-commune, c'est ce que vous propose Pure Politique à 18h20 sur RFJ. Le ministre Charles Juillard et le président de l'association jurassienne des communes, Michel Braillet, sont les invités de notre émission. Ils débattront sur les relations entre les deux entités, les finances et les perspectives de développement. Rendez-vous donc dans quelques minutes sur cette antenne pour suivre Pure Politique. Une invitée qui devrait amener le froid dans ses bagages. La vallée de la Brévine sera mise à l'honneur lors de la 47e édition des courses de chiens de traîneau à Seignelay-Légier, qui devrait se tenir les 26 et 27 janvier prochains. Elle était déjà invitée l'année dernière, mais à cause des conditions météorologiques presque trop printanières, la manifestation avait été annulée. Qu'à cela ne tienne, les Sibériens de la Suisse sont prêts pour se montrer sous leur meilleur jour, comme l'explique Jean-Maurice Gasser, président de la commune de la Brévine.
C'est vraiment la vallée qui va se présenter avec les trois villages et l'association Vallée de la Brévine. On aimerait avoir une image un peu différente que celle de la Sibérie de la Suisse. On aimerait présenter la vallée sous son aspect de quatre saisons.
Vous avez invité des personnes qui vont parler de la climatologie, du climat. Qu'est-ce qui va pouvoir être dit par rapport à tout ça ?
C'est surtout pour pouvoir répondre aux questions que nous avons sur la climatologie. Et on a la chance que ce n'est pas simplement la présentation de la météo, mais c'est une étude qui a été faite par l'Université de Neuchâtel où on a des réponses par rapport au terrain, par rapport à l'emplacement. On a ce froid et ce froid restera. On n'a plus les grands froids qu'on avait, on n'a plus les moins 41,8 qu'on a eu, mais comme cette nuit, il a fait quand même moins 20, et je pense que sur la Suisse, on est un petit peu dans les records. Donc on reste dans quand même une région très froide. On peut, par rapport à cette étude, le présenter autrement qu'on l'a présenté jusqu'à présent.
Des propos recueillis par Caroline Toussaint, les courses de chiens de traîneau auront lieu les 26 et 27 janvier prochains si l'enneigement est suffisant. Dans le cas contraire, une journée de fête du chien nordique est prévue dimanche 27. Londres et Berne pourraient-ils s'unir face à l'Union européenne ? La question peut se poser au lendemain du vote négatif sur l'accord sur le Brexit. Et alors que l'accord cadre négocié avec Bruxelles semble n'avoir aucune chance en Suisse, le Conseil fédéral qui pourrait être amené à rediscuter le texte gagnerait à se rapprocher du gouvernement britannique selon certains observateurs. Mais ce n'est pas l'avis du socialiste Carlo Sommaruga pour qui les situations du Royaume-Uni et de la Suisse ne sont pas comparables.
D'un côté, c'est les conditions d'une sortie et de l'autre, c'est les conditions d'un rapprochement. Donc on est dans des dynamiques différentes, avec des enjeux différents. Mais une chose est certaine, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, sentant cette difficulté à convaincre et nécessité aussi de resserrer les rangs, s'affirme plus et a une dynamique plus sévère vis-à-vis, je dirais, des États tiers comme la Suisse ou la future Grande-Bretagne.
Cette inflexibilité n'inquiète pas le président de la Confédération qui appelle de ses voeux une renégociation de l'accord cadre, Willy Maurer.
On verra, on dit en français. Non, je pense qu'il faut analyser la situation en quelques semaines peut-être pour le moment. Ça, c'est très curieux et il faut faire une analyse après nos consultations, après les décisions définitives de Britannia. Et après, on peut peut-être commencer avec les entretiens de nouveau.
Le Conseil fédéral a annoncé aujourd'hui qu'il discutera du projet avec les partis, des commissions parlementaires, les cantons, les partenaires sociaux et les milieux économiques et académiques. Theresa May poursuit son long chemin de croix sur la voie du Brexit. La première ministre britannique affronte aujourd'hui une motion de censure de son gouvernement à la Chambre des communes. Les débats ont démarré cet après-midi et le vote devrait intervenir vers 20h. La démarche fait suite au net rejet hier soir par cette même Chambre des communes de l'accord sur la sortie de l'Union européenne négocié avec Bruxelles. La motion de censure a toutefois très peu de chances d'aboutir et Theresa May devrait pouvoir continuer son pensum à la tête du Royaume-Uni. Les précisions de François Comte.
Un échec de la motion de censure paraît presque assuré, tout d'abord parce que la démarche a été lancée par l'opposition travailliste. Par ailleurs, le DUP, le parti unioniste d'Irlande du Nord, dont dépend la faible majorité de Theresa May, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne voterait pas la censure. Le vote de défiance ne pourrait donc aboutir que si des députés dissidents du parti conservateur de Theresa May décident de soutenir la démarche, ce qui provoquerait la chute de la première ministre et de son gouvernement. Le camp conservateur ne va toutefois pas prendre le moindre risque de provoquer des élections qui pourraient lui faire perdre la majorité. Bref, la motion de censure ne tournera pas à la crucifixion pour Theresa May, dont la recherche d'une solution pour le Brexit s'assimile de plus en plus à la montée vers le Golgotha.
RFJ, il est 18h11.
Sport.
C'est terminé pour Henri Laaksonen à l'Open d'Australie. Le joueur de tennis chafouzois est tombé les armes à la main face au numéro 1 australien Alex de Minaur. Il s'est incliné en début d'après-midi en 5 manches 6-4, 6-2, 6-7, 4-6, 6-3. Après un combat de près de 4 heures, le Suisse, issu des qualifications, s'est prouvé à lui-même qu'il peut rivaliser avec des joueurs majeurs. Henri Laaksonen.
Sicher, ich wollte gewinnen, aber er hat besser gespielt am Ende und
Bien sûr que j'aurais voulu gagner, mais il a mieux joué que moi en fin de match. Je suis satisfait de mon parcours dans le tournoi, je me suis qualifié pour le tableau principal et j'ai passé un tour. Je me suis prouvé à moi-même que je peux rivaliser aussi contre de bons joueurs et ça s'est joué à rien. Je dois encore beaucoup travailler, j'aurai encore d'autres possibilités.
Es war knapp. Ich muss einfach viel Arbeit tun und dass ich habe nochmal die gleiche Möglichkeit.
L'aventure australienne se poursuit en revanche pour Roger Federer et Belinda Bencic. Ils ont tous deux validé leur ticket ce matin pour les 16e de finale de l'Open d'Australie et seront respectivement opposés à Taylor Fritz et Petra Kvitova. Et on reste à Melbourne où Stan Wawrinka aura les honneurs de la Rod Laver Arena pour son deuxième tour à l'Open d'Australie. Le joueur de tennis vaudois défiera le Canadien Milos Raonic, 17e joueur mondial, sur le court central à 3h cette nuit, heure suisse. Et Stan, the man, a les idées claires avant son deuxième match dans le tournoi du Grand Chelem australien.
C'est assez simple ce que je dois faire, je sais exactement, il faut rester agressif sur ces jeux de service, essayer de ne pas montrer aucune frustration et puis de se battre tout simplement. Je me suis bien entraîné, suffisamment entraîné toutes ces dernières semaines. Pour moi maintenant c'est une question d'être bien frais et prêt pour le prochain tour.
Timea Bachinski entrera également sur le court à 3h cette nuit. La vaudoise sera opposée à la qualifiée russe Natalia Viklyantseva au deuxième tour de cet Open d'Australie. La dernière année des courses du Mont-Terrible attire les foules. L'engouement dépasse largement nos espérances, estime Pierre-Alain Vallat, président des courses du Mont-Terrible. L'Ultra Trail, long de 106 km, connaîtra sa première édition en avril prochain. C'est la dernière année des courses qui se tiendront entre La Joie et le Clos du Doubs. Quelques 152 inscriptions ont été enregistrées pour ce tracé qui cumule le trail de Calabrie et celui de Pitchisson. Si l'on combine les inscriptions à l'un des deux petits parcours et celle pour l'Ultra Trail, on atteint 235 participants. C'est bien plus qu'espéré, explique encore Pierre-Alain Vallat. Il précise qu'un quota avait été fixé à 200 coureurs avant d'être élargi en raison de la forte demande. Vu le succès rencontré, on imagine bien sûr reconduire cette formule et élargir encore le nombre d'inscriptions, ajoute Pierre-Alain Vallat. Très belle soirée.
Ce soir et cette nuit, le temps restera sec, mais Météo News annonce l'arrivée de passages nuageux. Le temps, cependant, se chargera et les précipitations arriveront tôt demain matin. Elles seront faibles, mais au fur et à mesure de la journée, elles deviendront de plus en plus, bon, pas violentes, mais de plus en plus fortes. Et elles se partageront la place dans le ciel avec les éclaircies. Les températures seront de saison. Elles oscilleront à l'aube entre 2 et 3 degrés. Les maximales, elles, avoisineront les 7 degrés. Il faudra tout de même s'attendre en fin de soirée à des flocons puisque la limite des chutes de neige passera de 1000 à 700 mètres d'altitude, voire même 500 mètres, mais ça, ce sera pour le soir.